Chapitre 6. Le marquis de Montedgecombe, en ouvrant la grande armoire secrète, la bibliothèque clandestine, disait à Sperelli : Vous devriez me dessiner les fermoirs. Le volume est un in-quarto, daté de Lampsac, 1734. Les gravures me semblent très fines. Jugez-en. Il tendit à André le livre rare, orné de vignettes voluptueuses. Voici une figure très importante, ajouta-t-il en désignant du doigt une des vignettes. C'est une chose que je ne connaissais pas encore. Aucun de mes auteurs n'en fait mention. Il ne cessait de parler, discutant chaque détail, suivant les lignes du dessin, avec son doigt blanchâtre semé de poils sur la première phalange et terminé par un ongle pointu, luisant, un peu livide, comme un ongle de quadrumane. Les paroles entraient dans l'oreille de Sperelli avec un grincement atroce. Voici une édition hollandaise de Pétrone qui est magnifique. Et voici l'Erotopénion, imprimé à Paris en 1798. Vous connaissez le poème attribué à John Wales, An Essay on Woman? En voici une édition de 1763. La collection était très riche. Elle comprenait tout ce que l'esprit humain, au cours des siècles, a produit de plus infâme et de plus raffiné pour servir de commentaire à l'hymne antique en l'honneur du dieu de Lampsac. Le collectionneur prenait les livres sur les rayons de l'armoire et les montrait à son jeune ami en parlant sans interruption. Ses mains se faisaient caressantes pour toucher les livres reliés en peau et en étoffe précieuse. À chaque instant, il avait un sourire subtil. Et dans ses yeux gris, sous son énorme front convexe, un éclair de folie passait. Je possède aussi l'édition princeps des épigrammes de Martial, celle de Venise, imprimée par Wendelin de Spire, in folio. Voyez, les fermoirs sont d'un grand maître. Cette composition emblématique est de grand style. Sperelli écoutait et regardait avec une stupeur qui se changeait peu à peu en horreur et en douleur. Ses yeux étaient sans cesse attirés par un portrait d'Hélène pendu à la muraille sur le damas rouge. C'est le portrait d'Hélène peint par Frédéric Leighton. Mais regardez ce livre, le frontispice, les titres, les initiales, les encadrements réunissent tout ce que nous connaissons de plus exquis en matière d'iconographie galante. Regardez ces fermoirs. La reliure était admirable. Une peau de requin, rugueuse et âpre comme celle qui garnit la garde des sabres japonais, couvrait les deux plats et le dos. Les fermoirs et les clous, d'un bronze très riche en argent, ciselés avec une rare élégance, rappelaient les plus beaux ouvrages en fer du XVIe siècle. L'auteur, Francis Redgrave, est mort dans un asile d'aliénés. C'était un jeune artiste de génie. Je possède toutes ces études. Je vais vous les montrer. » Le collectionneur s'animait. Il sortit pour aller prendre l'album dans la chambre voisine. Son pas était un peu sautillant et mal assuré, comme celui d'un homme qui porte déjà en soi un germe de paralysie, un commencement de maladie de la moelle épinière. Son buste demeurait rigide, sans seconder le mouvement des jambes, pareil à un buste d'automate. André Sperelli le suivit du regard jusqu'au seuil, inquiet. Lorsqu'il fut seul, une affreuse angoisse le prit. La chambre, tapissée de damas rouge sombre, comme celle où Hélène s'était donnée à lui 2 ans auparavant, lui apparut tragique et lugubre. C'était peut-être ces mêmes tapisseries qui avaient entendu les paroles d'Hélène. « Tu me plais !» L'armoire ouverte laissait voir les fils de livres obscènes, les reliures bizarres, estampé de symboles phalliques. À la muraille pendait le portrait de Lady Hetfield près d'une copie de la Nelly O'Brien de Reynolds. Du fond de la toile, les deux créatures regardaient avec la même intensité pénétrante, avec la même ardeur de passion, avec la même flamme de désir sensuel, avec la même éloquence prodigieuse. Toutes deux avaient la bouche ambiguë, énigmatique, sibylline, la bouche des infatigables et inexorables buveuses d'âme, et toutes deux avaient le front marmoréen, immaculé, d'une pureté inaltérablement radieuse. « Pauvre Redgrave, » dit Lord Hetfield en rentrant avec le portefeuille des dessins. « Assurément, c'était un génie. Jamais une imagination érotique n'a surpassé la sienne. Regardez, regardez, quel style! Regardez !» Il s'éloignait un instant pour aller refermer la porte. Puis il revint vers la table près de la fenêtre et il se remit à feuilleter le recueil sous les yeux de Sperelli, parlant sans cesse et indiquant de son doigt simiesque, effilé comme une arme, les particularités de chaque figure. Il parlait dans sa langue, donnant à chaque commencement de phrase une intonation interrogative et à la fin de chaque phrase une chute monotone, fastidieuse. Certaines de ses paroles déchiraient l'oreille d'André comme un son aigre de fer qu'on racle, comme le grincement d'une lame d'acier sur une plaque de cristal. Et les dessins défilés, dessins épouvantables où se révélait la terrible fièvre qui avait pris la main du dessinateur, la terrible démence qui avait pris son cerveau. « Et maintenant, dit Lord Esfield, l'ouvrage qui a inspiré ses chefs-d'œuvre, un livre précieux, le plus rare des livres rarissimes. Vous ne connaissez pas Daniel MacLisius ?» Lord Esfield tendit à Sperelli le traité introuvable. Il s'échauffait de plus en plus à parler de plaisirs cruels. Ses tempes chauves s'empourpraient, les veines de son front se gonflaient. À chaque moment, sa bouche se contractait, un peu convulsée. Et ses mains odieuses, faisaient des gestes brefs mais rapides, tandis que ses coudes gardaient leur rigidité de paralysie. En lui, la bête immonde, laide et féroce, apparaissait sans voile. Et dans l'imagination d'André se dressaient toutes les horreurs du libertinage anglais, les exploits de la noire armée sur les trottoirs de Londres, la chasse implacable aux vierges vertes, les lupanards du West End et de l'Alphoon Street, les maisons élégantes d'Anna Rosenberg et de la Jeffries, les boudoirs secrets qui, capitonnés du plancher au plafond, étouffent les cris perçants que la torture arrache aux victimes. Mumps, Mumps, êtes-vous seul ? C'était la voix d'Hélène. Elle frappait doucement à l'une des portes. Mumps ! André tressaillit. Tout son sang lui fit un voile sur les yeux, lui alluma le front, lui mit un bourdonnement dans les oreilles, comme si un vertige brusque allait le saisir. Au milieu du trouble que lui avaient causé ses livres, ses figures, les discours de cet homme, un instinct furieux remontait des aveugles profondeurs de son être, la même impulsion qu'il avait déjà éprouvée un jour sur le champ de course après la défaite de Rutolo dans les âcres exhalaisons de son cheval fumant. Le fantôme d'un crime d'amour le tenta, puis se dissipa, rapide comme un éclair. Tuer cet homme, prendre cette femme de force, satisfaire sa terrible convoitise, puis se tuer aussi. « Non, je ne suis pas seul, » répondit le mari sans ouvrir la porte. « Dans quelques minutes, je vous amènerai au salon le comte Sperelli qui est ici avec moi. » Il replaça le livre dans l'armoire, il referma le portefeuille et le reporta dans la chambre voisine. André aurait donné n'importe quoi pour se soustraire au supplice qui l'attendait, et en même temps, ce supplice exerçait sur lui une attraction. Une fois encore, son regard se leva vers la muraille rouge, vers le cadre sombre où brillait la face exsangue d'Hélène, cette face aux yeux qui suivaient, à la bouche sibylline. Une fascination pénétrante et continue émanait de cette immobilité impérieuse. Cette pâleur unique dominait tragiquement toute l'ombre rouge de la chambre. Et une fois encore, il sentit que sa passion était inguérissable. « Voulez-vous passer au salon ?» demanda le mari en reparaissant sur le seuil, parfaitement remis et tranquille. « Ainsi, vous me dessinerez les fermoirs ?» André répondit « J'essaierai. » Il ne parvenait pas à réprimer son tremblement intérieur. Dans le salon, Hélène le regarda curieusement avec un irritant sourire. « Que faisiez-vous là-bas » lui demanda-t-elle sans cesser de sourire de la même façon. « Votre mari me montrait des bibelots précieux. »« Ah ?» Elle avait la bouche sardonique, un certain air gouailleur, une moquerie manifeste dans la voix. Elle s'installa sur un large divan recouvert d'un tapis de boucara, couleur amarante, sur lequel languissaient de pâles coussins et, sur les coussins, des palmes d'or éteintes. Et elle se mit à parler de choses mondaines, mais d'une voix qui s'insinuait jusque dans les veines d'André comme un invisible feu. Deux ou trois fois, il surprit le regard de Lord Esfin fixé sur sa femme. Et ce regard lui parut chargé de toutes les infamies remuées tout à l'heure. De nouveau, la pensée criminelle traversa son esprit. Toutes ses fibres tremblaient. Il se dressa livide. Lord Esfin lui dit « Vous partez déjà ? Qu'avez-vous donc ?» Et il sourit d'un sourire étrange. Sperelli s'inclinait. Hélène, sans se troubler, lui tendit la main. Le marquis l'accompagna jusqu'à la porte en répétant tout bas « Je vous recommande mes fermoirs. » Lorsqu'André fut sous le portique, il vit une voiture qui s'avançait dans l'avenue. Un gentilhomme à grande barbe blonde mit la tête à la portière. C'était Galeas Cecinaro. Et tout à coup remonta dans son esprit le souvenir de la vente de mai avec l'épisode de la somme offerte par Galeas pour obtenir qu'Hélène Mouti essuyât cette barbe ses beaux doigts mouillés de champagne. Il hâta le pas, sortit dans la rue. Il avait la sensation obtuse et confuse d'un bruit assourdissant qui s'échappait du fond de son cerveau. C'était une après-midi d'avril finissant, chaude et humide. Le soleil apparaissait et disparaissait entre les nuages floconneux et lents. La paresse du sirocco engourdit ses rhumes. Sur le trottoir de la rue Sixtine, il aperçut devant lui une dame qui s'acheminait lentement vers la Trinité. Il reconnut Marie Ferrès. Il regarda sa montre. 5 heures allaient sonner. Dans quelques minutes, ce serait l'heure habituelle du rendez-vous. Marie se rendait certainement au palais Zuccari. Il hâta le pas pour la rejoindre. Lorsqu'il fut près d'elle, il l'appela par son nom. « Marie !» Elle eut un sursaut. « Comment, tu es ici ? Je montais chez toi. Il est 5 heures. »« Moins quelques minutes. Je courais pour t'attendre. Pardonne-moi. »« Tu es tout pâle, tout bouleversé. Qu'as-tu ? D'où viens-tu ?» Elle fronça les sourcils en le regardant fixement à travers son voile. « Je viens de mon écurie, » répliqua André, qui soutint ce regard sans rougir, comme s'il n'avait plus eu de sang dans les veines. « Un cheval, auquel je tenais beaucoup, s'est blessé au genou par la faute du jockey. Aussi, dimanche, ne pourra-t-il pas courir le derby. Cela me chagrine et m'irrite. Pardonne-moi, je me suis attardé sans y prendre garde. » « Mais il n'est que 5 heures moins quelques minutes. »« C'est bien, adieu, je m'en vais. » Ils étaient sur la place de la Trinité. Elle s'arrêta brusquement et lui tendit la main. Elle gardait encore un pli entre les sourcils. Parmi sa grande douceur, elle avait parfois des impatiences presque rudes et des mouvements altiers qui la transfiguraient. « Non, Marie, viens, sois bonne, je monte pour t'attendre. » « Continue jusqu'aux grilles du Pincio et reviens sur tes pas. Veux-tu ?» L'horloge de la Trinité des Monts sonna 5 heures. « Tu entends ?» ajouta-t-il. Elle dit, après une courte hésitation, « Je viendrai. »« Merci, je t'aime. »« Je t'aime aussi. » Ils se séparèrent. Marie Ferrès continua son chemin, traversa la place, entra dans l'avenue bordée d'arbres. Au-dessus de sa tête, le long de la muraille, le souffle languissant du sirocco faisait par intervalle courir dans les arbres verts un murmure. Dans la tiédeur humide de l'air, des ondes subtiles de parfum coulaient et s'évanouissaient. Les nuages paraissaient plus bas. Des troupes d'hirondelles rasaient presque le sol. Et dans cette énervante lourdeur, il y avait une mollesse qui attendrissait le cœur passionné de la siennoise. Depuis qu'elle s'était rendue au désir d'André, son cœur s'agitait dans un bonheur sillonné d'inquiétudes profondes. Tout son sang chrétien s'embrasait aux voluptés jamais éprouvées de la passion et se glaçait aux terreurs de la faute. Sa passion était souveraine, débordante, immense, si despotique qu'elle lui ôtait souvent pour de longues heures le souvenir de sa fille. Elle allait parfois jusqu'à négliger Delphine. Et ensuite, elle avait des retours brusques de remords, de repentir, de tendresse, et elle couvrait de baisers et de larmes la tête de sa fille étonnée, en sanglotant avec un horrible désespoir, comme sur la tête d'une morte. Tout son être s'avivait à cette flamme, s'affinait, s'aiguisait, acquérait une sensibilité prodigieuse, une sorte de lucidité presciente, une faculté divinatoire qui lui donnait d'étranges tortures. Presque à chaque mensonge d'André, elle sentait une ombre passer sur son âme, elle éprouvait une inquiétude indéfinie qui, parfois, se condensait en forme de soupçon. Et le soupçon la dévorait, lui rendait amer les baisers, âcre les caresses, jusqu'à l'heure où il se dissipait sous les transports et les ardeurs de l'incompréhensible amant. Elle était jalouse. La jalousie était son tourment implacable. Non pas la jalousie du présent, mais celle du passé. Par l'effet de cette cruauté que les personnes jalouses exercent contre elles-mêmes, elle aurait voulu lire dans la mémoire d'André, en découvrir tous les souvenirs, retrouver toutes les traces qui avaient laissé les anciennes maîtresses, savoir, savoir. La question qui lui venait le plus souvent aux lèvres, lorsqu'André demeurait silencieux, c'était « À quoi penses-tu ?» Et au moment où elle proférait ces mots, une ombre inévitable lui passait dans les yeux et sur l'âme, un inévitable flot de tristesse lui montait du cœur. Aujourd'hui encore, quand il était survenu à l'improviste, n'avait-elle pas senti poindre en elle un soupçon instinctif ? Un éclair de lucidité lui avait même traversé l'esprit. Elle avait eu l'idée qu'André venait du palais Barberini de chez Lady Hatfield. Elle savait qu'André avait été l'amant de cette femme. Elle savait que cette femme s'appelait Hélène. Elle savait enfin que c'était l'Hélène de l'inscription « Ich liebe ». Le distique de Goethe lui retentissait douloureusement sur le cœur. Ce cri lyrique lui donnait la mesure de l'amour d'André pour cette femme si belle. Il devait l'avoir immensément aimée. En marchant sous les arbres, elle se rappelait l'apparition d'Hélène dans la salle de concert au palais des Sabini et le trouble mal dissimulé de l'ancien amant. Elle se rappelait la terrible émotion qu'il avait prise elle-même à une fête de l'ambassade d'Autriche lorsque la comtesse Starnine lui avait dit, en voyant passer Hélène, « Lady Hatfield, te plaît-elle ? C'était, et je crois que c'est encore, une grande passion de notre ami Sperelli. » Je crois que c'est encore. Que de tortures causées par cette phrase. Elle avait suivi des yeux sa grande rivale, obstinément, parmi la foule élégante, et son regard s'était rencontré plus d'une fois avec le regard de l'autre, et cela lui avait donné un frisson indéfinissable. Puis, le même soir, présentées l'une à l'autre par la baronne de Beckhorst, au milieu de la foule, elles avaient échangé une simple inclination de tête. Et cette muette inclination s'était répétée, par la suite, dans les occasions assez rares où Marie-Thérèse avait traversé une réunion mondaine. Pourquoi les doutes, assoupis ou étouffés sous le flot des ivresses, ressuscitaient-ils avec tant de violence? Pourquoi ne parvenait-elle point à les réprimer, à les écarter? Pourquoi, au fond d'elle-même, toutes ces inquiétudes, suscitées par le moindre heurt du soupçon? En marchant sous les arbres, elle sentait croître sa détresse. Son cœur n'était point satisfait. Le rêve éclos de son cœur, pendant la matinée mystique, sous les arbres fleuris, en face de la mer, ne s'était point réalisé. La partie la plus pure et la plus belle de cet amour était restée là-bas, dans le bosquet solitaire, dans la symbolique forêt qui fleurit et fructifie en face de l'infini perpétuellement contemplé. Elle s'arrêta devant le parapet qui regarde Saint-Sébastianello. Les vieux chênes verts, d'une verdure si sombre qu'elle paraissait presque noire, étendaient sur la fontaine une toiture factice et sans vie. Les troncs portaient de larges blessures, comblées avec de la chaux et des briques, comme les brèches d'une muraille. Oh, les jeunes arbousiers rayonnants et respirant dans la lumière! L'eau, dégouttant de la haute vasque de granit dans le bassin inférieur, jetait par intervalles un éclat de gémissement, comme un cœur qui s'emplit d'angoisse et puis déborde en torrent de larmes. Oh, la mélodie des cent fontaines dans l'avenue des lauriers! La ville gisait, morte, comme ensevelie sous la cendre d'un volcan invisible, silencieuse et funèbre comme une ville ravagée par la peste, énorme, informe, dominée par la coupole qui s'élevait de son sein comme une nuée. Oh, la mer sereine! Elle sentait croître sa détresse. Une menace obscure lui venait des choses. Elle fut saisie de ce même sentiment de crainte qu'elle avait déjà éprouvé tant de fois. Dans son esprit chrétien flamboya la pensée du châtiment. Et néanmoins, à la pensée que son amant l'attendait, elle frémit jusqu'au plus profond de son être. À la pensée des baisers, des caresses, des folles paroles, elle sentit s'embraser tout son sang et son âme défaillir. Le frisson de la passion l'emporta sur la crainte de Dieu. Et elle se dirigea vers la demeure de son amant, aussi palpitante, aussi bouleversée que pour un premier rendez-vous. « Ah, enfin !» s'écria André en la recevant dans ses bras, en buvant le souffle de sa bouche haletante. Il lui prit une main, la serra contre sa poitrine, lui dit « Sans mon cœur, si tu avais tardé une minute de plus, il se serait brisé. » Au lieu de la main, elle appuya la joue. Il lui mit un baiser sur la nuque. « Tu l'entends battre ?»«
Oui, et il me parle. »«
Que te dit-il ?»«
Que tu ne m'aimes pas. »«
Que te dit-il ?» répéta le jeune homme en lui mordant la nuque et en l'empêchant de se relever. Elle rit.
« Que tu m'aimes ?»
Elle ôta son manteau, son chapeau, ses gants. Elle alla respirer les bouquets de lilas blancs qui emplissaient les hautes coupes florentines, pareilles à celles du tondo de la galerie Borghese. Elle avait sur les tapis un pas d'une légèreté extraordinaire et rien n'était plus gracieux que le geste simple dont elle enfonçait son visage dans les touffes délicates. Avec les dents, elle coupa l'extrémité d'une grappe et, la tenant à la bouche, hors des lèvres, « Prends, » dit-elle. Ils s'embrassèrent longuement, longuement, au milieu du parfum. Il dit d'une voix un peu changée, en l'attirant à lui, « Viens !»«
Non, André, il est trop tard. Aujourd'hui, non. Restons ici, je te ferai du thé. »
Elle lui prit la main, entrelaça ses doigts aux doigts de son amant.
« Je ne sais ce que j'ai. Je me sens le cœur si gros de tendresse que j'aurais presque envie de pleurer. »
Ses paroles tremblaient, ses yeux se mouillaient.
« Oh, si je pouvais ne pas te quitter, rester ici toute la soirée !»
Elle avait le cœur si gros que cela lui donnait des accents d'une indéfinissable mélancolie.
« Quand je pense que tu ne connaîtras jamais tout mon amour, quand je pense que je ne pourrai jamais connaître le tien, m'aimes-tu ? Dis-le-moi, redis-le-moi toujours, 100 fois, 1000 fois, sans te lasser. Tu m'aimes ?
Ne le sais-tu pas ?
Non, je ne le sais pas. »
Elle proféra ces mots d'une voix si basse qu'André les entendit à peine.
« Marie ! »
Elle pencha la tête sur la poitrine d'André, silencieusement. Elle y appuya son front en attendant qu'il parlât, comme pour écouter son cœur. Il regarda cette pauvre tête courbée sous le poids du pressentiment. Il sentit la pression légère de ce front noble et triste sur sa poitrine endurcie par le mensonge, cuirassée de fausseté. Une anxieuse émotion l'étreignit. Une pitié humaine lui serra la gorge. Et ce mouvement de son âme se résolut en paroles qui mentaient, prêta le tremblement de la sincérité à des paroles qui mentaient.
« Tu ne le sais pas ? Ta voix s'est faite basse, le souffle s'est éteint sur tes lèvres. Au fond de toi-même, quelque chose a protesté contre ce que tu disais. Tous les souvenirs de notre amour, tous ont protesté contre ce que tu disais. Oh, tu ne sais pas si je t'aime ?»
Elle restait courbée, écoutant, palpitant, reconnaissant ou croyant reconnaître dans la voix émue du jeune homme l'accent vrai de la passion, l'accent enivrant qu'elle supposait inimitable. Et il lui parlait presque à l'oreille, dans le silence de la chambre, lui mettant sur le cou sa chaude haleine, avec des pauses plus douces que des paroles. Avoir une pensée unique, continuelle, de toutes les heures, de tous les instants, ne point concevoir d'autre bonheur que ce bonheur surhumain irradié sur mon être par ta seule présence, vivre tout le jour dans l'attente inquiète, furieuse, terrible, du moment où je te reverrai, après ton départ, nourrir l'image de tes caresses et te posséder encore dans un fantôme presque tangible,
te sentir quand je dors, te sentir sur mon cœur, vivante, réelle, palpable, mêlée à mon sang, mêlée à ma vie, et croire en toi seule, jurer par toi seule, mettre en toi seule ma foi, ma force, mon orgueil, tout mon univers, tout ce que je rêve et tout ce que j'espère. » Elle releva son visage baigné de larmes. Il se tut, arrêtant avec ses lèvres les gouttes tièdes qui lui coulaient sur les joues. Elle pleurait et souriait, lui caressant les cheveux de ses mains tremblantes, éperdues, secouées par les sanglots. « Mon âme, ma chère âme !» Il la fit asseoir, il s'agenouilla devant elle, sans cesser de lui baiser les paupières. Tout à coup, il eut un sursaut. Il venait de sentir sur ses lèvres la rapide palpitation des longs cils de Marie, comme d'une aile inquiète. C'était une caresse que jadis Hélène lui faisait en riant 20 fois de suite, et cette caresse, Marie l'avait apprise de lui, et sous cette caresse, il lui était arrivé souvent d'évoquer l'image de l'autre. Le sursaut fit sourire Marie, et comme elle avait encore, luisant entre les cils, une larme attardée, « Voilà aussi !» dit-elle. Et comme il la buvait, elle se mit à rire sans se douter de rien. Ses pleurs avaient cessé, elle était presque joyeuse, rassurée, pleine de grâce. « Je vais te faire du thé, » dit-elle. « Non, reste assise. » Tout à coup, dans son esprit, l'image d'Hélène venait de s'interposer. « Laisse-moi me lever, » pria-t-elle en dégageant son buste de l'étreinte. « Je veux que tu boives mon thé, tu en sentiras le parfum t'aller jusqu'à l'âme. » Elle parlait d'un thé précieux reçu de Calcutta, dont elle avait fait présent la veille à André. Elle se leva et alla s'asseoir sur le siège aux chimères, où continuait à mourir, exquise, la couleur rosa des grogos de l'ancienne dalmatique. Sur la petite table brillaient encore les fines maïoliques de Casteldurante. En préparant le thé, elle disait 1000 choses gentilles. Elle épanchait sa bonté et sa tendresse avec un entier abandon. Elle jouissait ingénument de cette chère intimité secrète, dans cette chambre tranquille, au milieu de ce luxe raffiné. Derrière elle, comme derrière la Vierge du Tondo de Botticelli, se dressaient les coupes de cristal couronnées par les grappes de lilas blanc. Et ses mains d'archange se mouvaient parmi les petits sujets mythologiques de Luzio Dolci et les hexamètres d'Ovide. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle à André, qui se tenait près d'elle, assis sur le tapis, la tête appuyée contre un bras du siège. « Je t'écoute, parle encore. »«
Je n'ai plus rien à dire. »«
Parle, dis-moi 1000 et 1000 choses. »«
Quelles choses ?»«
Les choses que toi seule sais dire. » Il faisait bercer par la voix de Marie l'angoisse qui lui venait de l'autre, il faisait animer par la voix de Marie le fantôme de l'autre. « Sens-tu ? » s'écria Marie en versant de l'eau bouillante sur les feuilles aromatiques. Un parfum violent se répandait dans l'air avec la vapeur. André l'aspira. Puis, fermant les yeux, « Tu m'enivres, » dit-il, très pâle. Puis, renversant la tête en arrière, « Embrasse-moi, » dit-il. Et au premier frôlement des lèvres, il tressaillit si fort que Marie en fut étonnée. Elle versa le breuvage dans une tasse et le lui offrit avec un sourire mystérieux.
« Prends garde, c'est un filtre !»
Il refusa la tasse. « Ce n'est point de cette façon que je veux boire.
Pourquoi ?»«
Je veux boire sur tes lèvres.
Comment ?»«
Comme ceci. Prends une gorgée que tu n'avaleras pas.
C'est encore trop chaud. »
Elle riait du caprice de son amant. Lui, toujours pâle, avait quelque chose de tendu et de pénible dans tous les traits. Ils attendirent que le thé refroidît. De temps à autre, elle approchait les lèvres du bord de la tasse pour essayer. Puis elle riait d'un petit rire frais qui ne semblait pas être le sien.
« Maintenant, on peut boire, » annonça-t-elle.
« Eh bien, prends une bonne gorgée, comme ceci. » Elle serrait les lèvres pour retenir le breuvage.
mais elle avait un rire dans ses grands yeux auxquels les larmes récentes avaient donné plus d'éclat. « Laisse couler tout doucement. » Et il but dans un baiser. Comme elle se sentait à bout de respiration, elle pressait le buveur trop lent en lui serrant les tempes.
« Mon Dieu, tu voulais donc m'étouffer ?»
Elle s'abandonna sur le coussin, comme pour se reposer, languissante, heureuse.
« Quelle saveur avait-il ? Tu m'as aussi bu l'âme. Je me sens toute vide. »
Il restait grave, les yeux fixes.
« À quoi penses-tu ? » lui demanda-t-elle de nouveau, en se redressant tout d'un coup et en lui posant un doigt au milieu du front, comme pour arrêter la pensée invisible.
« À rien, répondit-il, je ne pensais pas, je suivais intérieurement les effets du filtre. »
Alors elle voulut essayer à son tour, et elle but sur les lèvres d'André avec délice. Puis, pressant une main sur son cœur et poussant un long soupir, « Comme cela me plaît !» s'écria-t-elle.
André frissonna. Ces mots, ne les avait-elle pas dit avec le même accent qu'Hélène, le soir où Hélène s'était donnée ? N'était-ce pas la même phrase ? Il regardait sa bouche.
« Répète !»«
Quoi ?
Ce que tu viens de dire.
Pourquoi ?
C'est une parole si douce quand tu la prononces. Toi, tu ne peux pas comprendre. Répète !»
Elle souriait sans deviner rien, un peu troublée par le regard étrange de son amant, presque timide.
« Eh bien, cela me plaît !»
« Et moi ?»«
Tu dis ?»«
Et moi, je te... »
Perplexe, elle le regardait se tordre à ses pieds, hagard dans l'attente des mots qu'il voulait lui arracher.
« Et moi ?»«
Oh, toi, tu me plais !»«
Comme cela, répète encore, encore !»
Elle consentait sans deviner rien. Il éprouvait un spasme et une volupté indicible.
Pourquoi fermes-tu les yeux ? Demanda-t-elle, non par soupçon, mais pour qu'il expliquât ce qu'il ressentait.
Pour mourir.
Il posa la tête sur les genoux de Marie et resta quelques minutes dans cette attitude, silencieux, sombre. Elle lui caressait doucement les cheveux, les tempes, le front, ce front si pâle où s'agitait le rêve infâme. Autour d'eux, la chambre se noyait d'ombre, et le parfum mélangé des fleurs et du breuvage flottait. Les formes se fondaient en une seule apparence, harmonieuse et riche, sans réalité. Après un intervalle, «
Lève-toi, mon amour, dit-elle, il faut que je te quitte, il est tard. »
Il se leva, suppliant.
« Reste encore un peu avec moi. »
Et, de nouveau, il l'attira sur le divan où les coussins jetaient des lueurs dans l'ombre. Dans l'ombre, il renversa brusquement, lui saisit la tête, lui couvrit la face de baisers. Son ardeur était presque de la colère. Il s'imaginait qu'il serrait la tête de l'autre et il s'imaginait cette tête souillée par les lèvres du mari et au lieu d'en avoir du dégoût, il en avait un désir plus sauvage. Des bas-fonds de l'instinct remontaient à la conscience toutes les sensations troubles qu'il avait éprouvées en présence de cet homme. Et dans les baisers, ces choses ignobles passaient sur les joues, sur le front, sur les cheveux, sur le cou, sur les lèvres de Marie.
« Non, laisse-moi »
cria-t-elle en se dégageant de son étreinte par un effort. Et elle courut vers la table à thé pour allumer les bougies.
« Soyez sage !» dit-elle encore, un peu haletante, avec un air d'aimable fâcherie.
Il était resté sur le divan et la regardait silencieux. Elle alla vers la muraille, au coin de la cheminée, là où pendait le petit miroir ancien, et elle mit son chapeau et son voile devant la glace ternie qui avait une apparence d'eau trouble, un peu verdâtre.
« Comme cela me chagrine de te quitter ce soir !» murmura-t-elle, attristée par la mélancolie de l'heure. « Ce soir, plus que les autres soirs !»
Dans la chambre, la lumière violacée du crépuscule luttait contre la lumière des bougies. La tasse de thé était sur le bord de la table, froide, diminuée de deux gorgées. Au sommet des hautes coupes de cristal, les grappes de lilas paraissaient plus blanches.
Le coussin du fauteuil conservait l'empreinte du corps qui s'y était enfoncé. La cloche de la Trinité des Monts se mit à sonner.
« Mon Dieu, comme il est tard !» fit la pauvre créature en s'approchant d'André. « Aide-moi à mettre mon manteau !»
Il étreignit de nouveau dans ses bras, la couvrit de baisers furieux, aveuglément, éperdument, avec une ardeur dévorante, sans rien dire, étouffant la plainte sur cette bouche, la fureur presque invincible qui lui venait de crier le nom d'Hélène. Et sur l'être infortuné qui ne devinait rien, il consomma l'horrible sacrilège. Et, après un moment, d'une voix éteinte,
« Tu me prends, ma vie » dit-elle.
Elle semblait heureuse de cette véhémence passionnée. Et encore,
« Mon âme, ma chère âme, mienne, tout entière !»
Et encore, avec bonheur,
« Je sens ton cœur qui bat, si fort, si fort !»
Enfin, en soupirant,
« Laisse-moi, il faut que je parte !»
André était blême et bouleversé comme un homicide.
« Qu'as-tu ? » lui demanda-t-elle avec tendresse.
Il essaya de sourire et répondit « Jamais je n'avais éprouvé d'émotion aussi profonde. Je croyais mourir. » Il alla vers une des coupes, prit la botte de fleurs qu'il offrit à Marie, la reconduisit vers la porte, la pressa presque de partir. Chaque geste, chaque regard, chaque parole de cette femme lui causait un insupportable déchirement.
« Adieu, mon amour !» lui dit sur le seuil la pauvre créature avec sa tendresse infinie. « Pense à moi !»